Bon matin à tous et à toutes, ici Raymond Perron qui vous salue donc et qui vous souhaite une bienvenue cordiale, chaleureuse à cette autre édition de l'émission Parole du matin. Alors ce matin, nous sommes toujours bien sûr dans le prophète Daniel, un livre un peu différent de ce que nous avons vu jusqu'à maintenant. Et nous en sommes au chapitre 9. Ce matin, nous verrons ce que j'ai intitulé « La prière inspirée de la parole ». Et ça vient de Daniel 9, donc les versets 1 à 19 que je vous lis à l'instant. « La première année de Darius, fils d'Assuérus de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens, la première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Je priai l'Éternel mon Dieu et je lui fis cette confession. Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles, nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple du pays. À toi, Seigneur, est la justice, et à nous la confusion de face en ce jour, aux hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem et à tout Israël, à ceux qui sont près et à ceux qui sont loin, dans les pays où tu les as chassés à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables envers toi. Seigneur, à nous la confusion de face, à nos rois, à nos chefs et à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Auprès du Seigneur notre Dieu, la miséricorde et le pardon, car nous avons été rebelles envers lui. Nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel notre Dieu pour suivre ses lois qu'il avait mises devant nous par ses serviteurs les prophètes. Tout Israël a transgressé ta loi et s'est détourné pour ne pas écouter ta voix. Alors se sont répandues sur nous les malédictions et les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre Dieu. Il a accompli les paroles qu'il avait prononcées contre nous et contre nos chefs qui nous ont gouvernés. Il a fait venir sur nous une grande calamité et il n'en est jamais arrivé sous le ciel entier une semblable à celle qui est arrivée à Jérusalem. Comme cela est écrit dans la loi de Moïse, toute cette calamité est venue sur nous et nous n'avons pas imploré l'Éternel, notre Dieu. Nous ne nous sommes pas détournés de nos iniquités, nous n'avons pas été attentifs à ta vérité. L'Éternel a veillé sur cette calamité et l'a fait venir sur nous. Car l'Éternel, notre Dieu, est juste dans toutes les choses qu'il a faites, mais nous n'avons pas écouté sa voix. Et maintenant, Seigneur notre Dieu, toi qui as fait sortir ton peuple du pays d'Égypte par ta main puissante et qui t'es fait un nom comme il l'est aujourd'hui, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité. Seigneur, selon ta grande miséricorde, que ta colère et ta fureur se détournent de ta ville de Jérusalem, de ta montagne sainte. Car à cause de nos péchés et des iniquités de nos pères, Jérusalem et ton peuple sont en opprobre à tous ceux qui nous entourent. Maintenant donc, ô notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur, et pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Mon Dieu, prête l'oreille et écoute, ouvre les yeux et regarde nos ruines, regarde la ville sur laquelle ton nom est invoqué, car ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications, c'est à cause de tes grandes compassions. Seigneur, écoute, Seigneur, pardonne, Seigneur, sois attentif, agis et ne tarde pas, par amour pour toi, ô mon Dieu, car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. En fait, la lecture du texte elle-même est une prédication extraordinaire. D'ailleurs, nous allons relire cette prière en cours d'émission parce qu'elle en vaut vraiment la peine. Vous savez, il nous arrive parfois de nous dire, si Dieu est souverain, pourquoi prier? On devrait plutôt dire, vous savez, puisque Dieu est souverain, nous devons prier. Et ce chapitre 9 du livre de Daniel apporte un éclairage sur la question, en plus de nous fournir des éléments d'inspiration pour nos prières. Nous voyons dans un premier temps la prière et la parole de Dieu. Le premier élément qui saute aux yeux véritablement dans cette péricope, c'est que la prière de Daniel ne vient pas de son imagination fertile. Il ne sort pas une liste d'épiceries là, qu'il présente au Seigneur. Non, cette prière-là, elle est motivée par sa lecture de la parole de Dieu. Remarquez les versets 1 à 3. La première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens. La première année de son règne, donc, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Voilà donc que dans sa lecture des Écritures, Daniel trouve cette promesse sous la plume du prophète Jérémie. C'est intéressant de noter que Daniel reconnaît l'inspiration et l'autorité d'un collègue prophète, hein, comme faisant partie d'un canon plus large de l'Écriture inspirée. Est-ce qu'on ne devrait pas nous-mêmes avoir la même attitude que Daniel devant l'Écriture sainte, hein? À savoir lire cette parole pour ce qu'elle est, c'est-à-dire la parole de Dieu, la parole inspirée de Dieu. Et au fil de sa lecture, Daniel trouve une référence à la désolation de Jérusalem qui devait durer donc 70 ans, cette décennie. Alors, il faisait vraisemblablement référence à Jérémie chapitre 25, versets 11 et 12 et Jérémie 29, verset 10, où le Seigneur déclare en effet qu'il assujettira son peuple à Babylone pendant 70 ans en guise de châtiment pour leurs péchés, mais qu'au terme de ces années-là, dans sa grande miséricorde et sa fidélité alliantielle, le Seigneur les ramènera dans leur pays. Alors, Daniel réalise que ces 70 années-là arrivent à leur terme, à leur fin, et donc il commence à prier. Il commence à prier avec une ardeur renouvelée pour l'accomplissement de cette prophétie, à savoir la restauration d'Israël. Et l'intensité croissante de sa prière se voit très bien par sa décision d'y ajouter et le jeûne, et aussi de prendre le sac et la cendre. Ça, c'était des signes de deuil et de repentance pour les péchés de son peuple. On voit que le passage de la foi à la souveraineté de Dieu à la prière, hein? Il croit à la souveraineté de Dieu et ça ne l'amène pas à se laisser aller et à abdiquer et à tout abandonner. Bien au contraire, ça le conduit à la prière passionnée et ça va bien sûr à l'encontre de la question que nous avons posée au début. Si Dieu est souverain, pourquoi prier? C'est tout le contraire, hein? Puisque Dieu est souverain, nous prions. Et c'est précisément lorsque Daniel lit dans l'Écriture sainte le plan de Dieu. Ce plan qui était de juger Babylone et de restaurer son peuple, ben c'est à la lecture de cette promesse-là qu'il élève sa voix en prière. Il prie non pas qu'il pensait que la prophétie risquait de ne pas se réaliser. Non, il prie plutôt parce qu'il avait pleine confiance que le Dieu souverain allait agir exactement selon sa promesse. Une belle leçon, hein? C'est une belle leçon pour nous, ça, qui ne savons pas toujours pourquoi prier, quoi demander dans nos prières, même au sein des épreuves, même au milieu des difficultés, il nous arrive de ne pas savoir comment prier. Alors, Daniel ici est une inspiration à cet égard, alors qu'il sonde des Écritures et qu'il prie pour les choses que Dieu a clairement promises. Voyez, par exemple, Dieu a promis de rendre parfaite l'œuvre qu'il a commencée en nous, Philippiens 1:6. Alors, c'est une prière qu'on peut faire avec confiance. Seigneur, par ta grâce, poursuis l'œuvre de transformation dans ma vie. Ainsi, dans nos épreuves, on peut prier que Dieu utilise ses difficultés pour l'avancement de son œuvre dans ma vie, dans mon cœur, pour qu'il me donne plus d'humilité, pour qu'il me rende davantage conscient de ma dépendance de lui. Un autre exemple. Dieu a aussi promis de me donner une paix qui surpasse celle du monde, qu'il serait avec moi dans les sombres vallées comme un bon berger, elle reste. Oui, ce sont des sujets pour lesquels on peut prier avec confiance parce que nous nous reposons sur une parole révélée de Dieu. Daniel donc a prié que Dieu fasse ce qu'il avait promis, et il a prié avec confiance parce qu'il priait pour ce que Dieu avait promis. Voilà. Mon deuxième point maintenant, la prière et le royaume de Dieu. Un deuxième élément digne de mention, c'est que Daniel ne fait pas que prier pour lui-même, pour sa petite personne, pour son propre confort et sa protection, mais il se soucie du peuple de Dieu, il se soucie du royaume de Dieu. C'est normal, hein, de prier pour nos besoins personnels, bien sûr, mais on ne devrait pas être absorbé par cela au point d'en oublier les souffrances et les besoins du peuple de Dieu. Et c'est tout à fait dans l'ordre des choses que de prier « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ». Mais il nous faut aussi nous rappeler de prier « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». Et certainement que Daniel vivait dans l'incertitude de son sort en cette première année de Darius. Qu'est-ce qui va m'arriver maintenant avec ce changement de gouvernement? Et malgré tout, le souci central de sa prière concernait les besoins du royaume de Dieu. Comment Daniel a-t-il prié pour le peuple? Alors je vous relis cette merveilleuse prière que nous retrouvons au verset 4 à 19. « Je priais l'Éternel, mon Dieu. » Je lui fis cette confession, « Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, hein, » il s'identifie au peuple, « nous avons été méchants et rebelles, nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances, nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple du pays. À toi, Seigneur, est la justice, et à nous la confusion de face en ce jour, aux hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem et à tout Israël, à ceux qui sont près et à ceux qui sont loin, dans tous les pays où tu les as chassés à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables envers toi. Seigneur, à nous, la confusion de face, à nos rois, à nos chefs et à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Auprès du Seigneur notre Dieu, la miséricorde et le pardon, car nous avons été rebelles envers toi. Nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel notre Dieu pour suivre ses lois qu'il avait mises devant nous par ses serviteurs les prophètes. Tout Israël a transgressé ta loi et s'est détourné pour ne pas écouter ta voix. Alors se sont répandues sur nous les malédictions et les imprécations qui sont décrites dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre Dieu. Il a accompli les paroles qu'il avait prononcées contre nous et contre nos chefs qui nous ont gouvernés. Il a fait venir sur nous une grande calamité et il n'en est jamais arrivé sous le ciel entier une semblable à celle qui est arrivée à Jérusalem. Comme cela est écrit dans la loi de Moïse, toute cette calamité est venue sur nous et nous n'avons pas imploré l'Éternel notre Dieu. Nous ne nous sommes pas détournés de nos iniquités. Nous n'avons pas été attentifs à ta vérité. L'Éternel a veillé sur cette calamité et l'a fait venir sur nous, car l'Éternel, notre Dieu, est juste dans toutes les choses qu'il a faites, mais nous n'avons pas écouté sa voix. Et maintenant, Seigneur notre Dieu, toi qui as fait sortir ton peuple du pays d'Égypte, par ta main puissante, et qui t'ai fait un nom comme il l'est aujourd'hui, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité. Seigneur, selon ta grande miséricorde, que ta colère et ta fureur se détournent de ta ville de Jérusalem, de ta montagne sainte, car à cause de nos péchés et des iniquités de nos pères, Jérusalem et ton peuple sont en opprobre à tous ceux qui nous entourent. Maintenant donc, ô notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur. Et pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Mon Dieu, prête l'oreille et écoute, ouvre les yeux et regarde nos ruines, regarde la ville sur laquelle ton nom est invoqué. Car ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications, c'est à cause de tes grandes compassions. Seigneur, écoute, Seigneur, pardonne, Seigneur, sois attentif, agis et ne tarde pas par amour pour toi. Ô mon Dieu, car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. On voit que Daniel ne craint pas de répéter encore et encore, nous avons péché, nous nous sommes détournés de ta loi, nous sommes coupables, toi tu es juste et le châtiment que tu nous imposes est parfaitement juste. Nous avons péché, nous n'avons pas écouté tes prophètes, nous n'avons pas écouté tes lois, nous avons fait comme nos pères, comme nos prédécesseurs, nous sommes des pécheurs. On retrouve trois éléments essentiels dans cette prière de Daniel. Vous l'aurez vraisemblablement noté. On retrouve une invocation, premièrement. On retrouve ensuite, comme je viens de le mentionner, une confession. Moult confessions, devrais-je dire. Et on retrouve également une pétition ou une requête, si vous le voulez. Alors, Daniel commence dans son invocation par reconnaître qui est ce Dieu auquel il s'adresse. Il ne s'adresse pas à une divinité générique, là. Non, quel est ce Dieu? Qui est ce Dieu auquel il s'adresse? Ben, il l'appelle Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Puis au verset 14, il poursuit, l'Éternel, notre Dieu, est juste dans toutes les choses qu'il a faites. Alors c'est un Dieu grand, un Dieu redoutable, un Dieu de miséricorde, un Dieu de justice. Dans un deuxième temps, il confesse les péchés de sa communauté. Il reconnaît la justesse, le bien fondé du jugement de Dieu sur elle. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles, nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances, nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple du pays. À toi, Seigneur, est la justice et à nous la confusion de face. Comme cela est écrit dans la loi de Moïse, toute cette calamité est venue sur nous et nous n'avons pas imploré l'Éternel, notre Dieu. Nous ne nous sommes pas détournés de nos iniquités. Nous n'avons pas été attentifs à ta vérité. L'Éternel a veillé sur cette calamité et l'a fait venir sur nous, car l'Éternel, notre Dieu, est juste dans toutes les choses qu'il a faites. Mais nous, nous n'avons pas écouté sa voix. Et troisièmement, et ça c'est un grand encouragement, Troisièmement, il se rabat sur la fidélité de Dieu à son alliance, et là, je ne peux m'empêcher de dire « Alléluia ». Donc, il se rabat sur la fidélité de Dieu à son alliance, sur la miséricorde divine. Voici ses propos. « Et maintenant, Seigneur notre Dieu, toi qui as fait sortir ton peuple du pays d'Égypte par ta main puissante, et qui t'ai fait un nom comme il l'est aujourd'hui. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité. Seigneur, selon ta grande miséricorde, que ta colère et ta fureur se détournent de la ville de Jérusalem, de ta montagne sainte, à cause de nos péchés et des iniquités de nos pères. Jérusalem et ton peuple saint sont en opprobre à tous ceux qui l'entourent. Maintenant donc, ô notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur, et pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Mon Dieu, prête l'oreille et écoute, ouvre les yeux et regarde nos ruines, regarde la ville sur laquelle ton nom est invoqué. Car ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications, c'est à cause de tes grandes compassions, tes méga compassions, Seigneur. Écoute, Seigneur, pardonne, Seigneur, sois attentif et agis, et ne tarde pas par amour pour toi, ô mon Dieu, car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. Ne devrions-nous pas commencer nos prières ainsi, en nous rappelant à nous-mêmes la grandeur et la grâce de notre Dieu manifestée dans sa fidélité à son alliance? Nous devrions confesser nos péchés, nous rappelant les promesses de miséricorde divine. Vous savez, parfois, on est sous l'impression, là, qu'on a dépassé la limite, qu'on a franchi le point de non-retour et que Dieu a épuisé toute sa compassion, la compassion qu'il avait pour nous. Il est maintenant en rupture de stock, pour employer une expression contemporaine. Jamais Dieu prend plaisir à la miséricorde. Et pour les siens, pour ceux qui vraiment veulent suivre ses voies, il n'est jamais à court de miséricorde. Et dans Lamentations, chapitre 3, versets 22-23, quel beau verset. « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisés. Hein, nous, on est épuisants. On serait épuisés si nous étions Dieu. On serait épuisés par les pécheurs. Mais Dieu n'est jamais épuisé. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. C'est des termes d'alliance, bonté, fidélité, compassion. Et dans 2 Timothée, dans le Nouveau Testament, deuxième lettre de Paul à Timothée, chapitre 2, verset 13, « Si nous sommes infidèles, il, lui Dieu, demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. » Donc, chers amis, la seule base de notre prière, ce n'est pas « Oh, j'ai été faim aujourd'hui, je vais donc prier et Dieu n'aura pas le choix de me répondre hein, parce que j'ai été faim. » Non, 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 non. D'abord, on n'est jamais faim. Hein? Et lorsque nous entrons dans la présence de Dieu, ce n'est jamais en notre nom personnel, mais c'est toujours au nom du Seigneur Jésus-Christ, parce que jamais Dieu regarde à nous directement, mais il nous regarde toujours à travers le filtre, si vous me passez l'expression, du Christ Jésus, en qui nous avons été faits justice, sainteté et gloire. Et ça m'amène à mon troisième point, la prière et la croix. Vous savez quoi? La plus belle vitrine d'exposition de la grandeur et de la grâce de Dieu, ben, c'est la croix. Et ça devrait être notre motivation dans la prière. Puisque Dieu a tellement aimé son peuple qu'il a envoyé son Fils mourir pour nous, il va certainement aussi nous donner les ressources, n'est-ce pas? Les ressources nécessaires pour vivre notre vie en lui. Et c'est précisément l'affirmation claire, nette et précise que nous donne l'apôtre Pierre dans sa deuxième épître, chapitre 1, verset 3. Il nous est rapporté en effet, « Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés pour sa propre gloire et par sa vertu. » Tout ce dont on a besoin là, pour notre vie chrétienne, Dieu nous l'a donné. Il nous donne sa grâce, il nous donne son pardon, nous donne sa miséricorde, il nous donne toutes ses promesses. Dieu a promis de nous sanctifier, non pas en 48 heures, non pas en 3 étapes ou en 10. Dieu a promis de nous sanctifier toute notre vie durant, lentement mais progressivement aussi. On devrait prier régulièrement pour l'avancement de cette œuvre de sanctification dans nos cœurs et dans nos vies, avec des attentes réalistes, voyez-vous. Dieu a promis de sanctifier son Église, de sorte que nous devons prier pour nos frères et nos sœurs en Christ Jésus, hein, que Dieu puisse les sanctifier. Et on devrait aussi être patient avec eux, comme ils le sont avec nous et comme Dieu l'est avec nous tous. Dieu a promis de sauver les brebis errantes et de les amener dans la bergerie. On devrait donc prier passionnément pour la conversion de nos voisins, de nos amis, des membres de la famille qui ne sont pas encore sauvés, voyez-vous. Et c'est aussi ce genre de prière qui devrait être notre première réponse lorsque quelqu'un pèche contre nous. Oh, quelqu'un péché contre nous. Plutôt que de critiquer, plutôt que d'en parler à tout le monde, plutôt que de prendre des attitudes de vierge offensée et de penser que l'autre vient de commettre un crime de lèse-majesté, on devra en parler au Seigneur. Les maris devraient prier pour leur épouse et vice-versa. Les parents pour leurs enfants, les employés pour leurs patrons, elle reste. Chers amis, puisse le Seigneur nous donner de développer une culture de prière. Une culture de prière personnelle et une culture de prière collective, de prière en église. Comme c'est triste, hein, de constater que les réunions de prière de l'Assemblée, les réunions de prière de mi-semaine demeurent encore l'enfant pauvre de l'Église, sont tellement peu fréquentées. Et en terminant, si on voulait résumer la prière de Daniel, on ferait appel à quoi, chers amis? On ferait appel au mot grâce. Grâce! Nous sommes tous en besoin de la grâce de Dieu. Et, heureuse nouvelle, Dieu la répand richement sur sa création. Nous avons cependant besoin de plus que la grâce commune que Dieu répand sur la création et qui nous permet de jouir de la vie présente. Il nous faut aussi la grâce particulière, la grâce spéciale de la réconciliation avec Dieu, celle-là même qui nous assure de la vie éternelle. Et où est-ce qu'on peut la trouver, cette grâce-là? Où est-ce qu'elle est entreposée? Ben, la réponse est simple, elle est en Christ Jésus, en Jésus lui-même, selon qu'il est dit, « Celui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Et comment est-ce que ça se fait, cette chose-là? Avec quelle main peut-on aller puiser dans les greniers abondants de la grâce de Dieu? Ben, c'est exclusivement avec les mains de la foi. C'est uniquement en s'emparant de cette promesse de salut, de cette promesse de justice de Dieu pleinement accomplie en Christ Jésus, qu'on peut recevoir cette grâce indicible qui nous réconcilie avec Dieu et qui nous assure d'une vie éternelle et d'une félicité sans fin. Ouh, c'est ainsi que se termine l'émission de ce matin. Et elle vous revient, comme vous le savez certainement, en rediffusion cet après-midi. Si vous désirez nous écrire, vous connaissez notre adresse postale. Je la redis encore une fois, vous avez sûrement eu l'occasion, pour ceux qui sont de fidèles auditeurs et auditrices, de la mémoriser. L'adresse est la suivante, AERBQ, casier postal 40088, Québec, QC, G1H2S5. Notre adresse courriel, voilà, elle est sur notre site internet, foifm.com, visitez-le, ce site-là, vous aurez beaucoup de renseignements là-dessus. Notre numéro de téléphone pour les gens de la région de Québec, le 418-688-0506, numéro sans frais ailleurs en province, 1-877-659-0251. Gros bisous fraternels, gros hug à tout le monde, à vous tous, chers amis, chers frères et sœurs, et je vous convie à la prochaine, et que le Seigneur vous accorde une journée puissamment bénie dans sa grâce infinie. Amen.